producteur.
Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Dimanche, à partir de 16h10, TU.
RFI.
Vous écoutez Radio France Internationale, merci. Il est tout juste 20h en temps universel, 21h à Paris, 15h à La Havane.
Adrien Delgrange
et Sylvie Berruet à mes côtés pour vous présenter en direct ce journal en français facile. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Adrien, bonsoir à tous.
Bienvenue au sommaire de cette édition du vendredi 12 février 2016 comme un espoir de paix en Syrie. Avec l'accord de Munich signé la nuit dernière, Russes et Américains envisagent un arrêt total des hostilités d'ici une semaine, autrement dit la fin de la guerre. La réaction dans un instant d'un journaliste et défenseur des droits de l'homme syrien, Mazen Darwish.
Au nord du Mali, deux attaques mortelles ce matin. Une contre une base de l'ONU à Kidal a fait au moins 6 morts, des casques bleus, et une autre à Tombouctou a frappé l'armée malienne. Bilan, 3 soldats tués.
Nous nous intéresserons dans ce journal aux buts, aux objectifs de la visite du pape François à Cuba et au Mexique.
Et puis en France, passation de pouvoir dans certains ministères aujourd'hui suite au remaniement d'hier. Exemple avec celui de la culture. Et tout d'abord, en Syrie, après 5 ans de guerre et plus de 260 000 morts, les négociations la nuit dernière à Munich entre les États-Unis et la Russie, les négociateurs appellent à une trêve des hostilités, autrement dit à faire taire les armes.
Un accord fragile, Sylvie, mais s'il se confirme sur le terrain, il constituerait un premier pas, une première étape pour espérer la paix et stopper en tout cas l'engrenage de la guerre. Le texte prévoit aussi un accès humanitaire immédiat afin d'évacuer plusieurs milliers de Syriens qui veulent fuir les combats, des hommes et des femmes bloqués notamment à l'heure actuelle à la frontière turque. D'après les Russes et les Américains, cet accord pourrait être appliqué d'ici une semaine. Écoutez à présent la réaction du Syrien Mazen Darwish sur cet accord de Munich. Journaliste et défenseur des droits de l'homme, ce Syrien a passé 3 ans et demi en prison. Il a retrouvé la liberté de parole l'année dernière. Mazen Darwish, de passage à Paris, au micro de Nicolas Falaise.
Le journal en français facile.
En français facile.
Si c'est respecté par toutes les parties, cela peut être un pas en avant pour parvenir à une solution politique. Mais les Nations Unies ont déclaré que le régime avait refusé de laisser passer 90% de l'aide humanitaire prévue. Les émissaires de l'ONU ont constaté l'étendue de la catastrophe. Ils ont vu des gens mourir de faim sous leurs yeux. D'où cette question. Si le régime refuse toujours l'acheminement de l'aide humanitaire, quelle sera la réaction de la communauté internationale? Ce qui est regrettable, c'est que les États-Unis peuvent mener des frappes aériennes, mais qu'ils sont incapables de larguer du lait pour les enfants. À Munich, il a été décidé de stopper les hostilités d'ici une semaine. Nous avons attendu 5 ans, alors nous pouvons encore attendre une semaine pour voir si c'est appliqué. Ou pour constater que tout cela ne servait qu'à gagner un peu de temps.
Les États-Unis et la Russie sont tombés d'accord la nuit dernière pour relancer le processus de paix en Syrie. Alors comment réagissent les pays voisins?
Eh bien, exemple avec le Liban. Les spécialistes de la guerre en Syrie doutent de la possibilité de mettre en application cet accord de cessez-le-feu. La correspondance dans ce pays voisin de la Syrie de Paul Ralifet.
Sur le papier, l'accord de Munich constitue une percée significative, mais dans la pratique, il sera difficile de le mettre en œuvre, surtout que le délai d'une semaine décidé par les Russes et les Américains est très court. Tel est l'avis de la majorité des commentateurs qui ont réagi ici au Liban à l'accord de cessation des hostilités conclu entre John Kerry et Sergueï Lavrov après 5 heures d'intenses négociations. Selon les experts libanais, c'est la question du front al-Nusra pour lequel ne s'applique pas le cessez-le-feu de Munich qui pose problème. En effet, la branche syrienne d'Al-Qaïda combat aux côtés des autres groupes rebelles, parfois dans les mêmes tranchées, dans le nord d'Alep. Or, pour les Russes et pour les troupes gouvernementales syriennes et leurs alliés, il n'est pas question de stopper l'offensive contre cette organisation classée terroriste par les Nations Unies. Tant que les autres groupes rebelles n'auront pas clairement annoncé leur rupture avec Al-Nusra, le prétexte est tout trouvé pour poursuivre l'offensive dans cette région. Cela est encore plus explicite à Idlib, au nord-ouest, qui est presque entièrement sous le contrôle d'Al-Qaïda. Dans cette province, les Russes et l'armée syrienne affrontent une coalition appelée l'armée de la conquête, dont Al-Nusra constitue l'une des principales composantes. Paul Khalif et Beyrouth.
Et puis enfin, juste avant cet accord de Munich, le président syrien a accordé une interview à l'AFP, l'agence France Presse. Il se dit prêt à négocier tout en poursuivant le combat contre la rébellion.
Au nord-est du Mali, des tirs de roquettes contre une base de l'ONU attaquée tôt ce matin.
Vers 6h, heure locale, plusieurs assaillants ont fait irruption à bord d'un véhicule. Ils ont alors tiré sur le camp de la mission de l'ONU à Kidal, la MINUSMA, sur des militaires. 6 casques bleus ont été tués par cette attaque attribuée aux djihadistes. Et puis, à noter une autre attaque meurtrière aujourd'hui, toujours dans le nord du pays, à Tombouctou. 3 soldats maliens sont morts, 2 autres ont été blessés.
Le représentant des catholiques dans le monde entame un nouveau voyage. Le pape François est attendu en début de soirée à Mexico pour une visite de 5 jours. Mais juste avant, il aura fait une escale de 3 heures à Cuba.
But de cette étape à La Havane, la capitale de Cuba, rencontrer le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill de Moscou. C'est la première fois que les deux hommes vont se voir. Les églises d'Orient et d'Occident sont séparées depuis près de 1000 ans. Une visite du pape en Amérique latine qui a plusieurs objectifs. C'est ce que nous explique Geneviève Delrue.
L'écuménisme, la paix, la question migratoire, la violence, la foi catholique, tout est contenu dans le nouveau voyage du pape François. L'écuménisme avec la rencontre dans l'après-midi à La Havane avec Kirill, le patriarche de Moscou, une étape majeure dans le rapprochement entre les églises d'Orient et d'Occident, séparées depuis près de 1000 ans. La personnalité du pape argentin et puis la situation internationale ont eu raison des réticences au sein du patriarcat de Moscou, longtemps sur la réserve. Aujourd'hui, la Russie de Poutine apparaît pour le Saint-Siège comme le rempart au rouleau compresseur Daesh au Proche-Orient et en cela passe pour le protecteur des chrétiens d'Orient et comme le pays qui détient peut-être la clé de la paix dans une région en lambeaux. Au Mexique, c'est la violence que le pape viendra dénoncer, la violence des narcotrafiquants, la violence ordinaire qui s'est installée dans ce pays pauvre, devenu un des plus dangereux d'Amérique latine. Le sort fait aux indigènes et surtout aux pauvres migrants, c'est de tout cela dont le pape va parler aux quatre coins du pays pour redonner confiance à un peuple et à des catholiques attirés de plus en plus par les promesses des églises pentecôtistes.
Geneviève Delrue.
On passe à l'actualité en France, Adrien, avec le remaniement ministériel et la suite.
Autrement dit, la passation de pouvoir aujourd'hui dans de nombreux ministères français, notamment celui des Affaires étrangères, du logement, de l'aménagement du territoire et puis celui de la culture. Passation entre 2 femmes qui se connaissent bien. Elles étaient dans la même promotion de l'ENA. L'ancienne ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a passé le flambeau à la nouvelle ministre Audrey Azoulay. Une sortie en fanfare pour la première et une entrée très discrète pour la seconde, Elisabeth Le Quéré.
C'est un discours empreint d'un lyrisme qu'on ne lui connaissait pas que Fleur Pellerin a livré ce vendredi lors de ses adieux à la rue de Valois. La voix étranglée par l'émotion, l'ex-ministre a cité Malraux, Mozart, Jean Anouilh, égrenant longuement ses réalisations, entre autres la modernisation du droit d'auteur et le crédit d'impôt au cinéma, et martelant son amour pour la culture, bref tenant au moment de son départ le discours qu'on attendait d'elle depuis son arrivée rue de Valois. Face au tonnerre d'applaudissements déclenché par son intervention, Audrey Azoulay a joué la carte de la discrétion, accueillie par Fleur Pellerin d'un bienveillant « tu es ici chez toi ». La nouvelle ministre de la Culture l'a remerciée pour le climat de confiance dans lequel s'est faite la passation de pouvoir. Elle a enfin rappelé que la culture se conquiert et qu'elle est aujourd'hui même, pour la France, une colonne vertébrale autant qu'une arme de civilisation.
Et puis la culture, eh bien justement, elle passe aussi par la chanson. Place dans quelques instants à la bande passante sur RFI, Radio France Internationale. Ce soir, Alain Pilot reçoit le chanteur français Captain Kidd pour son second album. Et puis à noter, à l'heure actuelle, sur une chaîne de télévision française, les Victoires de la Musique, une cérémonie pour décerner les meilleurs chanteurs et musiciens français. C'est la fin de ce journal en français facile, présenté par Sylvie Berruet.
Et par vous, Adrien Delgrange.
Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez le réécouter et le lire quand vous le souhaitez sur notre site internet www.rfi.fr. Il est 20h10 en temps universel.